Très heureux d'être avec vous ce soir, je disais au pasteur, je n'ai jamais vu tant de monde le vendredi soir dans cette église de Perpignan. Alors c'est avec beaucoup de joie que nous venons accompagner justement de notre équipe Apollos. Ils vous l'expliqueront dimanche, je pense que Tristan va faire une présentation, mais Apollos c'était un personnage du Nouveau Testament, vous êtes plus courant au courant que les autres églises, puisque déjà vous avez contribué Myriam l'année dernière à ce programme. Mais c'était un personnage qui était rempli du Saint-Esprit, qui parlait de Jésus-Christ et qui se rendait utile aux chrétiens. Et ça, c'est le but de ce programme et de cette équipe qui va aider les églises à droite et à gauche dans l'évangélisation. Et donc, on est privilégié d'être à Perpignan, une église que nous connaissons depuis plus de 35 ans. Et très heureux d'être avec vous encore cette fois-ci. Bon, ces sujets donc, ce sont des sujets, les trois sujets, c'est, il s'agit de nous. Tout le monde aime quand on parle d'eux, vous ne trouvez pas? C'est quand on parle de vous, vous aimeriez savoir ce qu'ils disent. On va parler de vous ce soir, on va parler de moi, on va parler de l'être humain en général, notre guerre intérieure. On parle de conscience. On parle beaucoup aujourd'hui de pulsion. On parle aussi de contradiction. On est des êtres pleins de contradictions. Comment gérer tout cela? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? La plus grande guerre, la guerre qui nous coûte le plus cher en France et dans le monde, sur le plan de la santé, surtout dans nos pays développés, c'est la guerre intérieure. Ça coûte très cher à la sécurité sociale. Les troubles nerveux, les dépressions, le stress, les crimes pulsionnels éloignent bon nombre de nos concitoyens de leur emploi, de leur famille et de toute vie utile. Qui ne connaît pas quelqu'un qui pourrait travailler mais qui ne travaille plus parce qu'il est en pleine dépression et est complètement hors état d'être utile. Les Français, et je m'inclus, je vis là depuis très longtemps, nous les Français, si je puis le dire ainsi, sommes les premiers consommateurs de neuroleptiques au monde. Incapables de traiter la racine de nos problèmes, trop souvent nous nous en succombons. Et ces produits, et on le sait bien, ces produits nous rendent apathiques. Ayant de terribles effets secondaires sur le plan de la santé. On sait que les neuroleptiques peuvent jouer un rôle néfaste pour la santé cardiaque, par exemple, et beaucoup d'autres domaines. Aux États-Unis et de plus en plus en Europe, on commence à soigner les comportements dès l'école primaire. Les enfants qui n'arrivent pas à se concentrer mais qui troublent la classe sont souvent soignés avec des médicaments. Nous avons une amie, c'est Dr. Christine Lochte. Elle travaille dans une équipe qui mène des recherches sur le cerveau dans la ville de Montréal. Et son équipe étudie ce phénomène des enfants qui n'arrivent pas à se concentrer. Donc dans ces enfants trop remuants, il y a une déficience d'une substance chimique qu'on appelle les inhibiteurs. Alors ces médicaments qu'on donne souvent doivent compenser ce manque d'inhibiteurs. Mais curieusement, chez les enfants qui sont éduqués avec discipline dans un foyer stable, les enfants chimiquement ont suffisamment d'inhibiteurs dans leur cerveau pour bien se comporter. Et les autres enfants n'en ont pas assez. Mais curieusement, quand les enfants qui ne se concentrent pas, quand ils sont dans un cadre où ils sont disciplinés avec fermeté, avec amour, avec constance, les substances chimiques, les inhibiteurs, augmentent dans leur cerveau. Ce qui fait que cette substance chimique traduit sur le plan donc physique l'éducation que les enfants reçoivent dans leur cellule familiale. Et donc, ces inhibiteurs se développent et l'enfant sera capable de bien se conduire, de réagir et de se concentrer. Donc, on constate, et c'est un constat universel, que l'éducation familiale joue un rôle fondamental dans notre vie intérieure. Il y a beaucoup de gens qui ont de grands troubles parce qu'ils ont été mal éduqués ou pas éduqués ou n'ont pas eu un foyer familial stable. C'est un très grand problème dans tous nos pays. Mais pour comprendre la guerre intérieure, il faut peut-être que nous examinions d'abord notre vie intérieure. Qu'est-ce qui est en nous? Comment est-ce qu'on peut décortiquer toutes les parties de notre être? D'abord, on a le mot psyché, que vous connaissez sans doute, c'est le mot grec qui signifie l'âme. C'est là que vient le mot psychologie, etc., c'est l'étude de l'âme. Ça, c'est l'ensemble de toute notre vie intérieure, c'est le psyché. Donc, il y a notre intellect, compréhension des choses, nos émotions, tout ce qu'on ressent, et notre volonté, la capacité de prendre des décisions. Parlons un peu de cette conscience. La conscience fait partie de notre vie intérieure. Le mot conscience, con comme en espagnol, avec, science, la connaissance, avec la science. La conscience, c'est le sentiment que nous avons de nous-mêmes. Quelqu'un, un bébé qui bouge ses mains sans savoir que ses mains lui appartiennent. Et tout à coup, il se touche et puis peu à peu, il se rend compte qu'il a des membres. Il prend conscience qu'il existe de lui-même. On prend conscience de son existence. Notre conscience nous avertit de ce qui se passe en nous. La conscience nous permet de nous situer hors de nous-mêmes et de nous regarder comme un autre. Notre conscience nous permet de nous sonder, de nous évaluer. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, quelles sont nos motivations? Vous avez une conscience, vous savez, les gens, souvent il y a des gens qui se parlent tout le temps. Ils sont chez eux, pourquoi tu as fait ça? Mais c'est pas normal, mais attends, mais ressaisis-toi, mais attends, mais non, mais. Et vous regardez partout, ils ont un portable, non, mais ils se parlent à eux-mêmes. Bon, là c'est la preuve audible qu'ils savent qu'ils ont une conscience parce qu'ils se traitent comme s'ils étaient quelqu'un d'autre. C'est quelque chose quand même de précieux que de nous voir à l'extérieur de nous-mêmes et nous évaluer nous-mêmes. La Bible dit que Dieu nous a donné cette conscience qui nous permet de nous sonder et de nous juger nous-mêmes, de nous évaluer nous-mêmes. L'apôtre Paul dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Dieu dit aussi, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et trouvez-vous vous-même. Autrement dit, Dieu nous dit quand on lit la Bible et quand on découvre ce qu'est le salut et le pardon que Jésus-Christ nous offre, il dit, regarde-toi maintenant et examine et sonde-toi pour voir si toi tu as reçu ce salut ou si tu ne l'as pas encore reçu. Regarde-toi pour voir si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ et si tu es sauvé ou si tu n'es pas encore sauvé. On est capable de savoir par rapport à soi-même où nous en sommes. Ça c'est la conscience. Passons à côté il y a une autre pièce dans la vie intérieure, c'est la volonté. On a de la volonté. Qu'est-ce que c'est que la volonté? C'est le pouvoir de se déterminer librement. C'est une décision que l'on prend d'agir ou de ne pas agir. La psychologie définit 4 étapes entre la volonté et l'action. Alors, imaginons vous êtes au lit le matin, votre réveil sonne, d'accord? Il va se passer 4 choses avant que vous ne vous leviez. La première chose, vous entendez le réveil qui sonne et vous commencez à examiner vos mobiles, vos motivations internes. Est-ce que j'ai de la motivation interne pour me lever? Et rapidement dit non, je reste au lit. Puis vous examinez les motifs. Est-ce qu'il y a des raisons externes à moi-même de me lever? Oui, ton patron va te renvoyer, tu n'auras plus de sous si tu ne te lèves pas bientôt. Ok. Mobile manque, mais la motivation est là. Bon, je vais quand même entreprendre cette action. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on hésite. Parfois, on hésite longtemps. Hein. Donc là, on délibère sur le parti à prendre. Je me lève, je ne me lève pas, j'hésite, je devrais, mais bon. Troisième étape, on prend la décision qui met fin à la délibération. On se pose plus la question, on dit, c'est parti, je me lève. On prend la décision, là, et la quatrième étape, c'est qu'on se lève. Vous ne savez pas quel est tout ça, hein? Parfois, on se roule du lit et on tombe par terre et c'est là qu'on prend toutes les décisions. La partie physique de l'acte, mais on ne se lève pas, sans avoir pris la décision. On ne prend pas la décision sans avoir examiné si c'est nécessaire. Si c'est peut-être samedi matin, le patron va avancer samedi, je reste. Et là, vos mobiles gagnent surtout. Hein. La volonté. Nous prenons tous des décisions tout au long de notre vie et ça se passe comme ça, par ces quatre étapes. Après, il y a dans notre vie intérieure une autre chambre, on va dire l'esprit. Le mot esprit. Alors le mot esprit, pneuma, souffle, pneumatique de l'air. C'est l'esprit, c'est le souffle, notre souffle. Et alors on appelle le souffle, notre esprit, c'est cette substance. Enfin, ce n'est pas une substance, puisqu'il n'y a pas de corps, mais elle est consciente d'elle-même. C'est vous, la partie invisible, mais qui existe et qui sait qu'elle est là. Par exemple, la Bible dit que Dieu est pur esprit. Dieu n'a aucune particule de matière, pourtant il est pleinement vivant, il pense, il agit, il réfléchit, il fait plein de choses, mais il n'a pas de corps. Et vous et moi, on est fait à son image. Vous savez, quand la seconde après quelqu'un meurt, le corps est là intégralement. Mais ce qui faisait la personne est parti. Il n'y a pas de doute. C'est la meilleure preuve que ce qui fait que vous êtes vous, c'est immatériel. La psychologie désigne comme esprit, notre esprit, c'est l'ensemble de nos facultés intellectuelles. Mais dans la Bible, le mot esprit est généralement utilisé pour la capacité de connaître Dieu. Par exemple, l'apôtre Paul écrit à des gens qui étaient bien vivants, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Donc, quand nous naissons, et à mesure que nous grandissons et que nous vivons, dans notre état actuel, nous, on n'a pas de communication avec Dieu. Quand on est petit, on a communication avec sa mère, avec son père, avec ses voisins, mais on n'a pas de communication avec Dieu. Il y a même des gens qui prient, on dit, vous avez parlé à Dieu? J'ai essayé. S'il y en a un, j'espère qu'il m'a entendu, mais rien n'est moins sûr. On n'a pas de contact avec Dieu naturellement, et Dieu dit, entre vous et moi, il y a un état de mort, il y a une rupture de communication, vous ne me connaissez pas, je ne peux pas me révéler à vous, on est mort spirituellement. L'esprit. Alors la Bible dit que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur, et nous comprenons que nos péchés nous avaient éloignés de Dieu, et nous acceptons que Jésus-Christ a payé pour nos péchés, et nous lui demandons de nous les pardonner et de nous réconcilier avec lui, à ce moment-là, il y a la nouvelle naissance, et notre esprit entre pour la première fois en contact et en communion avec Dieu. À ce moment-là, notre vie change. Ce que notre frère Christophe disait tout à l'heure, ma vie a changé. Bon, là, ce qui part grave, après ça devient grave. Où est le changement? C'est la rencontre avec Dieu qui change notre manière d'être, notre manière de penser. Ça nous amène au mot penser. Qu'est-ce que c'est que le penser? Alors, c'est intéressant, c'est un mot qui vient du latin. Et en français, on a pensé, P-E-N-S-E-E, on a pensé, pensé l'appeler, P-A-N-S-E-R, et on a pesé, pesé. Et penser signifie peser dans son esprit, peser le pour et le contre, comme on dit, ou réfléchir sérieusement à quelque chose. Et aussi, il y a l'idée de soin. Réfléchir avec attention, penser, soigner. On réfléchit à une relation que nous avons, qui ne va pas très bien, on dit comment je pourrais restaurer cette relation, comment je pourrais m'entendre. Il y a tout cela dans notre pensée. Il y a aussi le mot réfléchir. Alors penser c'est penser, mais réfléchir c'est réfléchir, c'est revenir sur notre pensée pour l'approfondir. L'esprit se replie sur lui-même. Pour voir le pour et le contre de la première idée qu'on a eue. Et peut-être la modifier. Est-ce que quelqu'un ne vous a jamais proposé en marchant bien chez vous et frappe à votre porte, voilà, je vous vends cet aspirateur, 3 500 €, c'est pas cher pour tout ce qu'il fait, il vous rend la vie meilleure, c'est formidable, pour 3 500 petits euros, 84 mois de paiement, sans problème, vous signez, et vous êtes enthousiasmé, et vous êtes sur le point de signer, et vous dites, laissez-moi réfléchir. Ça veut dire, oui, je suis emballé, mais il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, et si je reviens sur cette proposition, je vais peut-être trouver que c'est un peu cher pour un inspirateur. Je vais réfléchir, je vais rentrer en moi-même, peser le pour et le contre, regarder mon compte en banque, je vais voir. Réfléchir, nous avons la capacité de réfléchir. Après, il y a toute une autre pan de notre vie intérieure qui s'appelle l'émotion, les émotions. Heureusement qu'on en a, mais parfois elles sont difficiles à vivre, hein. Qu'est-ce que l'émotion? Alors, les gens qui étudient le corps humain, tout ça, ils disent, mais c'est une décharge d'énergie. Littéralement, c'est une explosion d'énergie dans notre intérieur. C'est une énergie psychique et aussi musculaire. Dans une situation imprévue, généralement, ou une situation où on n'est pas adapté. Une émotion. On a des pensées qui s'affolent. On ne peut plus réfléchir normalement, on perd la capacité de parler ou de se contrôler dans une situation de peur. Les uns se fâchent, les autres crient et d'autres encore sont paralysés. Ils deviennent blêmes et ne disent rien. Il y a des gens qui semblent n'avoir aucune émotion. Là, on les en crierait ou frapperait, eux, ils ne font rien. Ils sont impassibles. Et alors, ils ont des... Tout est à l'intérieur. Nous avons, quand nous avons des réactions émotionnelles, on a des réactions neurovégétatives. Je ne vous appelle pas un légume vivant, hein. Mais neurovégétatives, c'est-à-dire qui est au niveau du corps. La tension sanguine monte, il y a des mouvements de cœur, il y a des troubles de la circulation qui donnent lieu à des troubles digestifs, respiratoires ou sécrétoires. Il y a l'accroissement du taux d'adrénaline dans le sang. L'adrénaline accélère le cœur et contribue à libérer du sucre de notre poids, ce qui à son tour excite le système sympathique et peut élever l'émotion à un paroxysme. Parmi les réactions motrices, d'une forte émotion, on peut voir le tremblement. Vous avez peut-être jamais eu peur, et puis après, vos mains tremblent comme ça. C'est une réaction physique ou la paralysie. Je ne peux plus. Parfois, on voit un accident va avoir lieu, et puis on est là et on est incapable de bouger. Ou alors, au contraire, des gestes explosifs. Bam, on tape dans tous les coins. Mais alors, les psychologues disent plus la réaction motrice est forte, plus on extériorise cette émotion. Plus les réactions viscérales intérieures sont faibles. Mais des gens qui semblent se contrôler parfaitement et ne manifestent aucune réaction discernable, en fait, ils gardent tout ça à l'intérieur. Parfois, il y a des gens qui sont très en colère, mais ils se contrôlent. Ils sont même très gentils. Vous ne percevez pas qu'ils sont prêts à vous tordre le cou parce que souriez. Mais alors à l'intérieur, ça travaille. Quelques temps après, on apprend tel, il y a des ulcères d'estomac, d'autres troubles internes. Alors, c'est pour ça que certains vivent les mêmes stress, mais certains ont des maladies qui viennent, et d'autres n'ont pas de maladie parce qu'ils sortent tout ce qu'ils ont en eux. Vous connaissez des gens qui disent, moi, quand je suis fâché, ça sort et après, il n'y a plus rien. Vous avez des gens qui se fâchent, qui vous appellent toutes sortes de noms, et 5 minutes après, ils vous embrassent, et puis c'est terminé. Et puis vous en avez d'autres qui, ils sont fâchés, mais 7 ans après, ils vous décrivent la situation avec force détail, ils n'ont jamais rien oublié, ils ont gardé tout ça pour eux sur une bande. Hein. Mais c'est eux qui souffrent plus peut-être que le premier. Dans notre vie intérieure, on a aussi ce qu'on appelle la convoitise. Alors la convoitise, c'est un désir, mais immodéré, une passion. Mais quelque chose qui n'est pas licite, qui n'est pas souhaitable. Il y a beaucoup de gens qui vivent la convoitise sexuelle, la convoitise des jeux de chance. Vous avez entendu quand ils font des publicités pour les casinos et tout cela, ils ajoutent maintenant une phrase, Attention, vous pouvez appeler tel ou tel numéro si vous avez un problème de revenu de chance, et si vous avez besoin d'un conseiller pour vous aider. Ils savent que c'est un comportement addictif et ils doivent mettre en place un conseiller pour vous aider à vous défaire. Alors, bien sûr, bien heureux celui qui dit, oui, excusez-moi, je vais au casino, mais j'ai un problème avec les jeux de chance. Et les gens qui ont un problème ne nous disent jamais. Hein, ce sont leur entourage qui le disent. Il y a des gens qui sont la convoitise de l'argent. Il y a des gens qui sont matérialistes. Il y a des gens qui sont tout pour moi. Hein. Mais les convoitises. J'ai un ami, il dit, je lutte avec une convoitise, il aime chiner. Il aime aller dans Emmaüs ici et là, etc. Il regardait les vieux trucs, il trouvait une chaise de 1955 et tel ou tel type, et l'achetait pour 3 euros et tout ça. Et puis, mais il vit pour ça, il se lève le matin, et un jour libre, je vais sortir chiner. Il a dit, c'est presque une convoitise, c'est un désir qui est tellement énorme qu'il arrive à peine à le contrôler. On a tous un ou deux domaines où vraiment il faut faire attention, on devient facilement esclave dans ce domaine-là. Alors si le mot, la pulsion, bon, pulsion vient du latin, c'est-à-dire une poussée. La pulsion, généralement, on dit, c'est un mot dans le domaine sexuel, c'est la poussée sexuelle chez l'humain. Il y a des gens qui ont une telle pulsion et qui cultivent ces pulsions-là et ils vont aller essayer d'assouvir leur pulsion et ça finit souvent très très mal, souvent des crimes d'une extrême violence, mais ils font des actes qui sont contraires à la nature, contraires à la biologie. Mais satisfaire ses pulsions, et en fait le monde aujourd'hui dit si vous avez une pulsion, mais ma foi il faut aller la satisfaire, hein, il faut pas, et si vous ne la satisfaites pas, vous allez être frustré. Ben c'est tout le contraire. Plus les gens essaient de satisfaire leurs pulsions, plus leurs pulsions augmentent. Et plus ils deviennent esclaves et imprévisibles. Et donc ça ne contribue pas à la maîtrise de soi, bien au contraire. Alors on va essayer de mettre toutes ces choses maintenant en relation. Quant à notre vie intérieure, l'homme, l'humain, nous sommes une âme. Nous avons un corps. Mais quand vous pensez à vous-même, à votre caractère, vous ne pensez pas à la taille de vos mains ou à comment sont vos genoux ou... Si vous êtes plutôt bien enveloppé et très maigre, non, vous pensez à votre caractère, vous pensez à votre personnalité, vous pensez à vos désirs et à vos rêves. Nous sommes une âme. Nous avons un corps. Nous avons aussi un esprit par lequel on peut entrer en contact avec Dieu. Dieu qui est pur esprit. Nous sommes logés dans un corps. Et dans notre vie intérieure, donc, on a plusieurs capacités. On est quand même très riche quand on y pense. À l'intérieur de nous-mêmes, nous avons notre intellect, notre capacité de comprendre, de penser et de réfléchir. Nous avons en nous des émotions, la capacité de ressentir. Et c'est étroitement lié à nos fonctions viscérales et motrices. Quand on voit quelqu'un qui souffre et les gens disent « Oh, j'avais mal au cœur pour lui. » Mais pas mal au cœur. Mais c'est une manière de parler, c'est viscéral. Quand on a peur, on sent que les intestins se... On va parfois dire « J'avais l'estomac en nœud. » Mais votre estomac, il était bien. Mais on avait l'impression que je ne pouvais rien avaler. Vous voyez, c'est viscéral et la Bible parle de nos entrailles, des entrailles de miséricorde, où est quelqu'un que vous aimeriez aider. Il semble que du fond de vous-même sort de la compassion, j'aimerais bien vous porter ceci, et vous sentez ça très profondément en vous. Donc nos émotions sont fortement liées à nos viscères et à tous nos organes internes. Notre volonté. On a donc la capacité d'évaluer une situation et de prendre une décision. Et puis accomplir l'acte qu'on a décidé de faire. On a donc aussi cette conscience qui nous permet de nous évaluer sur le plan moral. Et on a un combat. Parfois les gens disent « j'ai perdu le nord ». Ça veut dire « j'ai perdu le combat, je ne sais plus ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je suis confus là, je ne vois plus bien. » C'est un problème de conscience. La conscience ne fonctionne plus normalement. Mais de manière générale, Chaque fois que quelqu'un dans notre entourage dit un mot, fait un acte, immédiatement nous posons un jugement. Ah, ce qu'il a dit, c'était vraiment bien. Ou ce qu'elle a fait, ça je ne l'aurais pas fait par contre. Hein? On pose un jugement moral immédiatement. On a une conscience qui fonctionne tout le temps. Donc voilà la vie intérieure, toutes les composantes de notre vie intérieure. Maintenant, on va regarder en Genèse chapitre 1, verset 26, essayer de voir comment était l'homme, comment nous étions quand Dieu a créé l'être humain. Verset 26. Je sais que ça ne va pas correspondre aux théories de l'évolution, par lesquelles un jour un singe et sa femelle, au fond de leur caverne, se sont réveillés. Et puis le singe a dit à sa femelle, mais tu sais, on devrait développer un peu le langage, comme ça on pourrait parler. Et l'autre singe dit, dis oui au moins. Oui. Allez, ça y est, c'est parti, on est homme, on est homo sapiens sapiens. Hein. Que dit la Bible? C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus classique. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors là, c'est en lien, tout l'être d'homme est créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Il avait donc un corps humain. Un peu plus loin, il raconte comment Dieu a formé le corps de l'homme. Mais dans ce corps était logé donc un esprit et une âme, avec cette fameuse vie intérieure. Cependant, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés avec la capacité de faire un choix moral. Mais quand ils ont été créés, ils étaient, on va dire, neutres. Ils n'avaient jamais fait un choix moral. Donc, par conséquent, ils étaient innocents, ils ne connaissaient ni le bien, ni le mal. C'est des concepts pour eux qu'ils ne connaissaient pas quand ils ont été créés. La Bible dit que quand l'homme et la femme étaient créés, ils devaient faire, c'était sans doute l'été, ils n'avaient pas de vêtements. Ils étaient dans un jardin et ils n'avaient pas de vêtements. Et la Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est normal, ils venaient de les créer. Quand vous êtes nés, vous n'êtes pas nés avec des vêtements non plus. Hein. On vous en a fabriqué, mais imaginez, avant le premier vêtement, il n'y en avait pas. Mais ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Autrement dit que, depuis qu'ils ont fait un choix moral, la nudité, c'est une honte. On ne veut pas être vu par le public nu, encore que certains, ça ne les gêne pas. Mais, de manière générale, on a quand même une pudeur. Mais à cette époque-là, et Adam et Ève, il n'y avait pas de honte. Donc voilà, les voilà innocents. Ils ont toutes les capacités que nous avons, mais ils n'avaient jamais fait un choix moral. Dieu leur donne donc ce libre arbitre, il leur donne la capacité de faire un choix moral, et Dieu doit donc leur donne un seul ordre pour faire appel à leur volonté. L'homme et la femme décideront soit d'obéir à cet ordre, soit de désobéir. Mais Dieu avertit l'homme et la femme quelle sera la conséquence s'ils désobéissent. Et l'ordre c'était celui-ci. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est très simple. Ils avaient sans doute des pommiers, des poiriers, des orangeries, etc. Ils avaient toutes sortes d'arbres dans ce jardin d'Éden, mais il y en avait un qui avait aussi des fruits. Dit, ne mangez pas le fruit de cet arbre. Quand vous avez des centaines d'arbres, et un arbre qui est interdit, quand même, je veux dire, on ne se prive pas. De ne pas manger de cet arbre seul, ce n'est pas une privation. Mais Dieu leur donne cet ordre parce que l'homme et la femme doivent, un jour ou l'autre, faire un choix d'obéir ou de ne pas obéir à Dieu. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Et permettez-moi de vous dire tout de suite, parce que très souvent, dans le catholicisme et dans la tradition chrétienne, on nous a fait un peu croire, sans vraiment le dire en tant de mots, mais c'était la pomme. Et Ève et Adam mangent la pomme, c'était pas bien. Et en fait, ce fruit défendu, c'était la relation intime entre l'homme et la femme. C'est pas bien. Mais bon, c'est naturel, on est comme ça. Et donc, bon, mais. Et dans la pensée catholique, surtout au Moyen-Âge, c'était quelque chose qui était un mal nécessaire. Ce n'est pas du tout la pensée de la Bible. Permettez-moi de vous rassurer, si vous êtes un couple, mari et femme, les relations intimes sont dans la volonté de Dieu et il n'y a aucune espèce de honte, ce n'est pas un mal nécessaire, c'est une des joies de la vie. Pour revenir à ceci, c'est que c'était un vrai arbre avec du vrai fruit. Il n'y avait pas de petites images comme ça dans cette histoire. C'était pas l'arbre avec des fruits. C'était pas un acte intime ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Elle est là, dans les parages de cet arbre, sans doute. Et la Bible dit que Satan, sous la forme d'un serpent, est venu parler à Ève. Parce que la Bible dit que Satan est un ange aussi qui est esprit, mais peut prendre plusieurs formes et parler. Et il a parlé à Ève. Et premièrement, il dit, bon, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne deviez pas manger du fruit de cet arbre? Est-ce qu'il a vraiment dit? On dit oui. Il a dit, il ne fallait pas manger de cet arbre. On voit bien qu'elle a bien compris l'ordre de Dieu. Elle a bien compris. Elle a même allé plus loin, elle dit, oui, il ne faut même pas toucher l'arbre. Ça, Dieu ne l'avait pas dit. Mais elle a ajouté. Bon, ça devient grave. Même si on touche l'arbre, non, Dieu n'avait pas dit qu'il ne fallait pas toucher l'arbre, il ne fallait pas manger du fruit. Puis Satan dit, oui, mais c'est que si vous mangez ce fruit-là de cet arbre, vous allez devenir comme Dieu. Vous allez connaître le bien et le mal. L'idée, c'est que, vous savez, je crois que Dieu vous exploite un peu, hein. Il vous dit de ne pas manger de cet arbre, mais c'est parce qu'il veut vous asservir, il veut vous garder inférieur à lui. Il a des secrets qu'il ne veut pas que vous connaissiez. Ça, c'est complètement stupide comme raisonnement, hein. Si Dieu avait des secrets que l'homme et la femme ne devait pas connaître, il n'aurait pas mis l'arbre là devant eux, et il n'aurait pas dit ne mangez pas, il n'aurait pas mis l'arbre du tout, et puis il les aurait gardés comme ça. Donc c'est stupide, mais il y a un petit côté qui est flatteur. Il fait comprendre à Ève, tu vois, tu vaux bien plus que ce que Dieu veut que tu sois. Tu es une simple créature de Dieu, mais là, en mangeant ce fruit, tu pourrais devenir comme lui et connaître le bien du mal. Ce qui n'est pas faux. Parce que quand Ève prend la décision définitive, je mange ce fruit, ou je ne mange pas ce fruit, elle aurait connu le bien et le mal. Si elle avait décidé, je ne mange pas de ce fruit parce que j'ai choisi d'obéir à Dieu, elle aurait connu le bien. Le bien, c'est la décision que j'ai prise. Et le mal, c'est l'option que je n'ai pas choisie. Mais elle a fait le choix inverse. Elle a décidé de prendre de cet arbre et de manger. Alors la Bible dit qu'il y a une petite différence entre l'attitude de la femme et de l'homme. La femme a mangé du fruit parce qu'elle était séduite. Le raisonnement de Satan l'a trompée. Elle n'était pas innocente. Elle a quand même désobéi, mais elle est un peu abusée par le discours du diable. Adam, par contre, n'a pas été séduit. Lui, il a compris ce qui se passe. Et il a quand même choisi volontairement d'en manger. C'est peut-être le plus grand mal. Toujours est-il que dès qu'ils ont mangé ce fruit, c'était la décision, Dieu, on ne va pas t'obéir. Et immédiatement, comme le diable leur a dit, ils ont connu le bien et le mal. Ils ont connu le mal. Ils ont vu ce qu'est le mal. Et ils ont dit, tiens, le bien, c'est le choix qu'on n'a pas fait. Le mal, c'est le choix qu'on a fait. Immédiatement, après avoir pris ce fruit, connaissant le bien et le mal, ils se sont regardés, et pour la première fois, ils se sont dit, oui, il faut se couvrir là, on est nus là. Rien, j'étais nu, mais j'ai foncé, mais il faut faire quelque chose là, il faut se couvrir. Qu'est-ce qui est venu changer? Ce qui est venu changer, c'est qu'ils savaient d'instinct, immédiatement, que ce n'était pas bien d'être sans habit. Alors, ils ont pris les feuilles de figuier, vous connaissez les figuiers, les feuilles sont assez grandes, quelques-unes suffisent pour se faire un petit costume, enfin, quelque chose pour se couvrir, et ils ont cousu, bon, ça devait être pas très très costaud quand même, comme vêtement, vous savez, ne cassez pas, tu vas casser ta feuille de figuier. Bon, ils se sont couverts comme ils ont pu, puis quand Dieu est descendu le soir pour leur parler, ils se sont cachés. Avant, ils n'avaient pas aucune raison de se cacher, ils venaient en toute confiance vers l'Éternel, ils avaient une bonne communion, mais ce soir-là, ils se sont cachés. Et Dieu a les a poursuivis, où êtes-vous, et tout ça, mais alors, j'avais peur, et pourquoi t'as eu peur? Ben, parce que j'étais nu, et j'ai fait un peu tout bêtement, et qui t'a pris que tu étais nu, et je dis, est-ce que tu as mangé de cet arbre dont je t'ai défendu? Ben oui, ben voilà. Et ce jour-là, l'homme et la femme sont morts, pas physiquement. Ils sont morts spirituellement. Entre l'homme et la femme, d'une part, et Dieu d'autre part, il s'est dressé une barrière de péché. Et quand vous êtes moi, nous sommes nés de ces parents-là, et par Adam, la Bible dit, c'est clairement par Adam, par la semence de l'homme, cette nature pécheresse est transmise à tous les êtres humains. Qui sont nés, qui ont un père humain. Si vous avez un père humain, ce qui est normalement le cas, vous avez une nature pécheresse. Et nous naissons avec cette nature pécheresse. Et donc, nous naissons n'ayant aucun contact avec Dieu. On peut avoir ce contact, mais par Jésus-Christ. Mais à l'origine, on n'a pas de contact avec Dieu à cause de la nature dont nous avons hérité. Et c'est comme ça que nous naissons dans le monde. Nous avons donc, vous et moi, la connaissance du bien et du mal. Nous avons la capacité de penser, de réfléchir. Nous avons des sentiments bons et aussi mauvais. Nous avons la capacité de faire des choix moraux. C'est vrai, on peut choisir l'honnêteté, on peut choisir la malhonnêteté. On peut faire des choix, mais on a quand même en gros penchant une attirance pour le mal. Combien de fois on le dit? Je ne devrais pas, mais... Ah non, c'est trop fort, j'ai un cadavre en vie. Et les amis disent, non, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Mais non, mais non, mais... Ah oui, je sais que je ne devrais pas, mais... Vivement qu'ils partent, je vais le faire quand même. Hein? Dans plein de domaines, on sait que c'est mauvais, on le fait quand même. On a la rage de le faire. On a une convoitise. Et on dit, mais pourquoi, alors que je sais que c'est mauvais, pourquoi j'ai envie de faire cette chose-là? C'est parce qu'on a un penchant pour le péché. Voilà ce que l'homme est devenu. L'homme, au départ, innocent, il est devenu, il a la connaissance du bien et du mal, mais très souvent, il fait le mal, tout en sachant que c'est mauvais. Il choisit délibérément de faire le mal. Et mes amis, nous l'avons tous fait des centaines et même des milliers de fois dans notre vie. Alors l'homme est son dilemme. Le péché donc habite en nous. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est ce qui ne devrait pas être. Ce qui ne devrait pas être. Alors, ça vient à votre esprit peut-être 20, 30, 50, 100, 150 choses dans votre vie, dans ma vie à mienne, des choses qui ne devraient pas être. Pourtant, elles y sont. C'est ce que nous savons être mauvais. C'est un péché. L'apôtre Paul, il le dit aussi bien, il le dit pour nous. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, C'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et c'est vrai, on a tous connu ça. J'ai même envie de le faire. Quelque part, et pourtant, j'ai envie de le faire. Mais c'est quoi? Comment? J'ai envie, j'ai pas envie, enfin, je devrais pas, mais j'ai. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose en moi qui me pourrait la vie. C'est le péché, j'ai une nature pécheresse. Notre conscience nous dit ce que nous devrions faire, mais on a en nous des convoitises de faire le mal. Écoutez ce que Paul dit par rapport à des gens qui veulent s'enrichir. Si vous êtes là, vous vous dites, oh, je me garde d'être riche, je veux m'enrichir par tous les moyens, écoutez ce qui vous attend. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La quasi-totalité des gens qui sont hyper riches sont des gens misérables. Et quand vous leur demandez si vous pouviez avoir quelque chose, ce serait quoi? Ils disent, un peu plus d'argent. C'est faux. Ah oui, mais c'est parce qu'on perd la boule, on perd le nord, on a des désirs insensés et pernicieux, on vit dans le tourment. Alors, si nous nous livrons à nos convoitises et on dit, oh, j'en ai envie, je vais le faire, on éprouve des plaisirs. S'il n'y avait aucun plaisir dans le péché, on ne l'aimerait pas. Le péché comporte du plaisir. Mais, et pendant qu'on a le plaisir, on est dans le plaisir. Mais après que c'est fini, notre conscience est troublée, souillée, blessée et ultimement endommagée. Notre conscience peut être endommagée au point qu'elle est comme cautérisée. Vous savez, quand un enfant il saigne du nez tout le temps, on l'amène chez le médecin et puis il cautérise le nez pour que ça ne saigne plus. Il y a des gens qui ont la conscience brûlée, comme ça, pour que ça ne leur passe plus rien. Parfois, les criminels multirécidivistes dans nos prisons, c'est leur problème. Ils ont une conscience, ils en avaient une. La première fois qu'ils ont volé, ils étaient tout troublés, et ils disaient, j'espère que j'ai fait très mauvais, je ne devrais pas. Puis ils ont recommencé, jusqu'au point où même quand on les attrape, ils disent, oh, j'ai rien fait de mal, j'ai pas volé, bah, alors, vous prenez pour qui, etc. Et puis alors là, ils ont dit, regardez-moi dans les yeux, ils disent, vous n'êtes pas un voleur. Je ne suis pas un voleur. Un jour, j'ai dû aller au tribunal pour traduire pour les Africains qui faisaient le commerce de drogue. Alors le juge d'instruction, je ne comprenais pas, c'était une femme, mais qui avait la lèvre qui était comme ça, tout le temps comme ça, je dis, ouais, c'est pas très bon ça. Et j'ai compris pourquoi elle avait la lèvre comme ça, parce que les gens venaient, alors vous vendu de la drogue, ah non madame, je vends des épices africaines. Ah, c'est pour ça qu'on a une petite rondelle de papier, de sac en plastique pour mettre 10 grammes d'héroïne et puis, non, c'est des épices africaines et puis on faisait, fais ça. C'est-à-dire, elle écoutait les gens du bombard à longueur de journée. Et alors, elle ne se faisait pas d'illusions sur les gens qui venaient dans son bureau. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont plus, leur conscience ne travaille plus. Peut-être à un moment dans leur vie, ils auraient dit, oh oui madame, j'ai vendu de la drogue, c'est horrible, pourquoi je fais ça? Mais là maintenant, t'as terminé. Non, mais je peux vous le prouver madame. Je connaissais un jeune homme qui avait l'habitude de mentir, mais on savait quand il faisait un gros mensonge, il disait, je pourrais te jurer sur un tas de bibles de 10 mètres de haut, je mets ma main sur un tas de bibles comme ça et je vous jure. Là on savait qu'il mentait. Pour la conscience, on peut l'endommager. La guerre intérieure, en tout cas, est au niveau de notre conscience, cette boussole morale que Dieu nous a donnée. Et j'ai recité le verset qu'a cité le pasteur tout à l'heure. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Heureusement que nous avons la conscience. Quand les gens paraîtront devant Dieu, il y a bien sûr des gens qui n'auront pas entendu l'Évangile. Il y a des gens qui n'auront pas entendu le dicté des commandements. Ils n'auront jamais vu le film. Ils n'auront jamais lu la Bible. Dieu ne va pas les juger, il ne va pas dire « Je vous envoie en enfer parce que vous n'avez pas lu la Bible ». Ah non. Il ne va pas leur dire « Je vous envoie la punition parce que vous n'avez pas reçu Jésus-Christ ». Non. Il va leur dire « Est-ce que vous avez toujours fait ce que vous saviez être bon ?» Ils vont dire « Non. Je savais ce qui était bon. J'ai toujours su ce qui était bon. » Et malgré cela, à des milliers de reprises au cours de ma vie, j'ai fait ce que je savais être mauvais. Je savais que c'était mauvais avant de le faire et je l'ai fait quand même. Dieu n'est pas obligé de les juger, il dit, c'est votre conscience qui vous juge. Votre conscience avait raison. Même lorsqu'on suit parfois sa conscience, on ne la suit pas toujours. Hein? C'est plutôt l'exception. D'ailleurs, quand on suit sa conscience, on se vante à son entourage. Vous savez, l'autre jour, j'ai vu un billet par terre et j'ai vu que quelqu'un devant moi avait laissé tomber cet argent par terre. Vous savez ce que j'ai fait? Eh bien, je vous ai ramassé ce billet et je me suis précipité et j'ai donné ce billet à ce monsieur. Qui est reconnaissant, hein? J'ai bien fait, hein? Ça, franchement, oui, là, vraiment, j'ai fait quelque chose de bien. Ben, il vous en vante pendant 3 semaines, hein? Il ne vous dira pas les centaines de fois qu'il a fait le contraire de ce que disait sa conscience. Donc, on sait quand on fait le mal. On a fait le mal des milliers de fois et on ne peut rien faire pour changer de comportement. On ne peut rien faire pour renverser. Quand on avait une mauvaise pensée qui a traversé notre esprit, et qu'on s'est dit, ouh, cette pensée-là, je l'aime bien, reviens là. J'ai tourné autour de cette pensée. Ouf. Quelle pensée super, oh là 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 là. Et puis bon, ça va. Ah, c'était pas bien ce que j'ai fait. Il n'y a aucun moyen de défaire ce qu'on a fait. Aucun moyen. On l'a fait, c'est fait. Voilà notre dilemme. Alors comment sortir de cette situation? Comment avoir une conscience pure? Comment être pardonné pour toutes ces choses qu'on a faites? Eh bien, la religion nous dit, mais faites des bonnes œuvres. Vous avez fait le mal, ok, votre s'est chargé de ce côté. Faites des bonnes œuvres. D'ailleurs, on a tout un tas d'œuvres à vous proposer. Et puis des sacrements ou des trucs. Et puis, vous allez voir que vous allez essayer d'équilibrer ça. Et d'avoir autant de bonnes que de mauvaises, c'est peut-être même un peu plus de bonnes que de mauvaises. Vous aurez tous la moyenne. 11 sur 20, ça passe, même à l'école. Hein, ça devrait. Le problème, c'est que on ne vous dit jamais si ce que vous avez fait est suffisant. On ne peut pas vous garantir que vous irez au paradis. On ne peut pas vous garantir que Dieu est satisfait de vos œuvres. La religion vous dit faites, mais il ne donne pas les moyens de calculer si vous avez fait assez, si vous avez 500 kilos de bonnes œuvres. On n'a aucun moyen de mesurer. Alors on dit, eh bien, espérez, peut-être que ça ira bien. C'est pas. On vit avec le doute. Il y a 3 ans, à Lourdes, je ne vais pas à Lourdes en pèlerinage, je vais à Lourdes pour montrer aux gens ce que c'est. Et on m'a remis un dépliant, et le pape de l'époque disait, voilà, vous allez faire le tour de Sainte-Bernadette, la maison, machin, etc., les 6 stations de la croix, vous allez faire 3 actes de bonté à 3 personnes pendant la journée, et puis vous devez prier pour le repos de mon âme, l'âme du pape. Et je vous donne une indulgence de 45 jours. Et vous avez des milliers de gens qui sont venus faire le parcours, etc., faire 3 actes de gentillesse, prier pour le repos de l'âme du pape. C'est quoi ça? Le pape, et tous les papes, c'est pareil, il demande à toute son église, donc à 1 300 000 000 de personnes, de prier que lorsqu'il mourra, que Dieu puisse faire que son séjour au purgatoire soit le moins long possible,
et qui puisse aller au paradis le plus rapidement possible. Si vous avez 1 milliard 300 millions de personnes qui sont en train de prier pour vous, ça devrait avoir du poids, non? Mais comment est-ce qu'on peut se faire appeler le Saint-Père et ne pas savoir quand est-ce qu'on va aller au paradis? Et si lui doit avoir tous ces gens qui prient pour le repos de son âme, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de certitude. On a demandé au bon pape, on l'appelait le bon Jean XXIII, sur son lit de mort, « Saint-Père, est-ce que vous avez la certitude du paradis ?» Il a dit, « Je n'ai aucune certitude du paradis. » Mes amis, si le pape ne peut pas avoir la certitude, qu'est-ce qui nous fait croire que les simples fidèles peuvent en avoir? La réponse ne n'est pas à la hauteur du problème que nous avons. Alors, on a d'autres choses. La religion dit non, la religion, il n'y a pas de certitude. Allez, je crois que ce qui me reste à faire, c'est me distraire et de noyer ma conscience. Je me la noie. J'ai la télé, j'ai le cinéma. Je regarde. Je deviens passif. J'ai la musique. J'ai un univers de bruit. J'ai des moyens de communication. Je ne veux pas avoir du temps tranquille, je ne veux pas écouter ma tête, je ne veux pas qu'il y ait du silence. Si j'ai du silence, je vais devoir réfléchir à moi-même, ça ne va pas être bien, je vais être stressé. Non, du bruit, de la distraction, jusqu'à ma mort, je ne veux pas réfléchir, non, j'ai pas le temps. Comme une fois dans la rue, écoutez, j'ai pas le temps de m'occuper du problème de Dieu. Depuis quand Dieu a-t-il un problème? Alors on se noie dans un univers de bruit et de distraction. Qu'est-ce que l'on peut devenir dans sa vie intérieure? Jésus-Christ nous montre l'exemple. Dans Matthieu chapitre 4, le diable vient pour tenter Jésus-Christ, tenter, solliciter à faire le mal. Alors en Jésus-Christ, différemment de nous, en Jésus-Christ, il n'y a rien qui fait « oui, j'ai envie ». Lui, il n'a pas ça en lui. Mais le diable est venu en personne pour le solliciter. Alors par exemple, il n'avait pas mangé depuis 40 jours, il avait faim. Le diable dit, puisque tu es le fils de Dieu, c'est que ces pierres deviennent du pain, tu peux le faire, il pouvait le faire. Mais aussi, un peu plus tard, il dit, mais tu veux te faire connaître, tu es le sauveur du monde, il faut que les hommes te connaissent, il faut que tu les épates. Viens, monte en haut du temple et saute du haut du temple. Ça faisait plusieurs dizaines de mètres, hein, et tu vas descendre comme une plume, et les gens vont voir que tu es le fils de Dieu, puis ils vont t'admirer, puis ils vont te croire en toi. Puis à la fin, il dit, viens, et il a montré à Jésus tous les royaumes du monde. Regarde toute cette richesse, tout ce pouvoir. Si tu te prosternes pour m'adorer, je te donne tout ça. Voilà les tentations que Satan a lancées à Jésus-Christ. Vous savez ce qu'il a fait Jésus-Christ? Il a refusé toutes ces tentations, mais il a cité uniquement la Bible. Il a cité 3 versets de la Bible. Vous avez la même Bible qu'avait Jésus. Il n'a pas dit, attends, je suis le Fils de Dieu, non, il a cité la Bible, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable s'est parti parce que Jésus citait la parole de Dieu. Jésus a plié sa volonté à la volonté de Dieu. Jésus-Christ n'a jamais péché. Mais dans le jardin de Gethsémané, il priait. Et son Père lui avait déjà montré que sur la croix, il porterait nos péchés. Et sur la croix, en plus de l'extrême douleur de la crucifixion, Jésus recevrait tous nos péchés sur lui-même, et Dieu frapperait Jésus pour tous nos péchés. Il paierait pour tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps. Une horreur absolue, un jugement terrifiant. Jésus qui va payer l'enfer pour vous et pour moi en même temps que sa crucifixion. On peut très bien comprendre que Jésus, en priant dans la douleur et dans une intensité inouïe, il dit, Seigneur, s'il y a moyen pour toi de méditer cette coupe, si je ne suis pas obligé de passer par là, non point toutefois ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a plié sa volonté à la volonté du Père. Et vous et moi, nous pouvons aussi prendre cette décision. Nous pouvons plier notre volonté à la volonté de Dieu. Vous remarquerez qu'on n'est pas des robots. Je pourrais vous dire ce soir, tournez-vous. Je vais ouvrir le pavé numérique dans votre dos. Je vais rentrer en code secret. Et vous allez commencer à dire, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Et puis je vais dire stop. Et puis reprends, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Est-ce que vous n'êtes pas content de ne pas être un robot? Dieu, ça ne l'intéresse pas, des robots. Il nous fait une offre. On peut l'accepter, on peut la refuser. C'est notre dignité d'être humain. Il ne nous oblige pas, il nous propose. Il s'offre à nous. Il nous demande d'accepter son salut. Il dit d'abord, il faut vous reconnaître ce que vous êtes vous-même, dans votre vie intérieure. Il dit, regardez-vous les êtres humains, regardez-vous chacun de nous, individuellement. Il dit, il n'y a pas de juste. Il regarde, il vous regarde. Pas même un seul, pas un seul juste parmi vous. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et là, on pourrait lever la main tous, oui. J'ai fait quelques fois du bien, hein. Quelques fois. Mais, qu'est-ce que j'ai fait comme mal? Combien de fois j'ai fait ce que je savais ne pas être bon? Et je l'ai fait volontairement et en connaissance de cause. Je suis parmi ces gens-là. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas parfait. Deuxième chose, on a un échec moral. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Et Dieu dit, de toute façon, personne ne sera justifié devant moi par les œuvres de la loi. Vous connaissez les 10 commandements? Les 10 commandements, vous connaissez? Vous, bien sûr, je connais ça, c'est clair. Je suis né en France, ça, je suis chrétien, je connais ça. Les 10 commandements, d'ailleurs, je n'ai ni tué ni volé. Est-ce que ce n'est pas ce que disent les gens? J'ai ni tué ni volé. Bon, voir déjà, si on a ni tué ni volé, déjà. Mais, le premier commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ne s'agit pas de ne pas tuer, ne pas voler, il s'agit d'aimer Dieu depuis le premier instant de conscience, d'une manière parfaite et absolue, tous les jours, toutes les secondes, jusqu'à aujourd'hui, et de n'avoir jamais, jamais fait quoi que ce soit qui puisse attrister Dieu. Est-ce votre cas? Est-ce le mien? Sûrement pas. C'est l'échec moral. Alors, nous sommes un échec moral, mes amis, vis-à-vis de la perfection de Dieu. Nous, on ne peut pas se changer. Alors, nous devons prendre une décision. Et c'est notre décision, c'est la vôtre, c'est la mienne. Je l'ai prise. Christophe vous a parlé. Il a pris cette décision en tant qu'adolescent. Le pasteur, il a pris cette décision. Et chacun qui a pris cette décision pourrait vous raconter les circonstances dans lesquelles il a prise. Certains prennent cette décision à l'âge de 4 ou 5 ou 6 ans. D'autres la prennent, l'autre jour on était dans une église, il y a un monsieur qui a dit, je n'ai jamais de ma vie entendu ce message et je n'ai jamais de ma vie accepté Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai 86 ans. À 86 ans, il a pris cette décision de recevoir Jésus-Christ dans son cœur. C'est quoi cette décision? Eh bien, c'est de recevoir une offre. Dieu vous fait une offre, pas n'importe laquelle. Il lui fait l'offre d'être réconcilié avec moi. Je vous fais l'offre de pardonner tous vos péchés. Tous, même ceux que vous n'avez pas encore commis. Je vous les pardonne tous. Et Dieu, comment tu peux pardonner tous mes péchés? Eh bien, parce que je les ai déjà jugés sur un substitut. Quelqu'un a bien voulu se substituer à ta place et payer ta condamnation à ta place. Il s'agit de Jésus-Christ. Et lui, il n'avait pas de péché à payer pour lui-même. C'est pour ça qu'il pouvait prendre les vôtres. Et si vous le croyez, et si vous le croyez vraiment, et si vous comptez sur lui, il vous pardonnera et je vous réconcilierai avec moi-même sur le champ. Voilà l'offre que Dieu vous fait. Voilà l'offre de Dieu pour tous les êtres humains. Quand on a parlé avec ce monsieur qui avait 86 ans, il a dit, mais, et l'Église dans tout ça? Et le sacrement dans tout ça? Ah, je dis, si vous recevez Jésus-Christ comme sauveur, vous ne comptez sur rien d'autre que sur Jésus. Vous ne comptez pas sur votre Église, vous ne comptez pas sur vos œuvres, vous ne comptez pas sur le sacrement, vous ne comptez pas sur le prêtre, et je le dirai encore ce soir, vous ne compterez pas sur le pasteur, vous ne compterez pas sur les cantiques, vous ne compterez pas sur vos bonnes œuvres, vous ne compterez sur rien d'autre, à part le fait que Jésus a payé pour moi. Jésus a payé pour tous mes péchés à la croix, et je crois que son sacrifice est suffisant. Ça, c'est la condition de Dieu. Il dit, il faut passer toute votre confiance en Jésus-Christ et je vous offre immédiatement de vous pardonner et de vous réconcilier avec moi-même. Écoutez ce que nous lisons dans la Bible. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus-Christ. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a fait une transaction. Il a mis vos péchés sur Jésus et il mettra la justice de Jésus sur vous. Mais pour cette transaction, il faut que vous le décidiez. Il ne vous l'imposera pas. Alors quand on fait cela, on reçoit l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous console, qui nous dirige et nous laissons Jésus-Christ vivre sa vie à travers nous. L'apôtre Paul, qui était un vrai criminel, un meurtrier, un tueur du chrétien, il a reçu Jésus-Christ et il a laissé Jésus-Christ vivre sa vie à travers lui. Et voilà ce qu'il a écrit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et ça c'est la vie nouvelle. Alors la vie intérieure, ça change énormément, ça change tout. La seule manière de gérer notre guerre intérieure, de reconnaître d'où elle vient, c'est la lutte entre notre conscience et notre nature pécheresse. Christ seul peut apaiser cette guerre. Lui seul peut vous mettre en règle avec votre conscience et votre péché parce qu'il a payé. Et donc, il nous libère de cet esclavage, de cette nature pécheresse et il nous propose de vivre dans sa nature. Aucune religion, aucune moralité ne peut apporter ce changement. Il faut être réconcilié avec Dieu lui-même et régler le problème de base. Vous avez entendu le mot évangile déjà dans votre vie. L'évangile, c'est un mot grec qui veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut vous donner la paix dans votre cœur et mettre fin à la guerre intérieure. Prions. Nous allons nous incliner quelques instants. Je vais vous demander ce soir, si vous n'avez jamais pris cette décision de votre main, mais vous aimeriez la prendre de votre vie, mais vous aimeriez la prendre ce soir, de la prendre en toute franchise, en toute honnêteté, devant Dieu. Et je vous demanderai, si tel est votre désir, de bien vouloir lever votre main. Ce n'est pas la main qui vous sauvera, mais ça indiquera, oui, je prends cette décision ce soir. Et je prierai pour vous. Je ne mentionnerai pas votre nom, je ne le connais sûrement pas, mais je prierai pour vous. Seigneur Jésus, merci pour cette occasion de parler de ce qui est à l'intérieur de nous, de nos passions, de nos convoitises, de nos troubles, de cette conscience, Seigneur, de notre péché, de ton salut, de ton pardon, de ton offre. Merci pour l'Évangile. Merci parce que toi qui nous aimes, tu es le seul qui peut nous réparer, nous restaurer, et établir entre nous et toi une vraie communion d'amour. Seigneur, ce soir, tu tapes aux portes des cœurs. Tu viens frapper à la porte et tu dis, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je serai en communion avec lui et lui avec moi. Merci Seigneur de ne nous avoir pas créés comme des robots, mais comme des êtres humains capables de prendre une décision. Merci de nous avoir laissé ce libre arbitre. Merci aussi de venir plaider avec nous et nous supplier de venir à toi pour que tu puisses nous faire bénéficier de ta présence et de ta bénédiction. Pendant que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés, y a-t-il quelqu'un qui dirait ce soir, écoutez, dans mon âme et conscience, je reconnais que je suis un pécheur, il n'y a pas de doute. Vous me dites, et la Bible me dit que Jésus-Christ se tient prêt à me pardonner, à me sauver, à effacer mes péchés et à faire de moi son enfant. Eh bien, cette offre, je l'accepte. Je l'accepte franchement et de tout mon cœur, et je l'accepte ce soir. Je crois que Jésus-Christ veut me sauver et j'aimerais qu'il le fasse. Levez votre main et baissez-la, indiquant votre décision. Je prierai pour vous, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez baisser votre main, merci. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui, par la main levée, que Dieu vous bénisse? Est-ce qu'il y a une troisième personne qui dit, je voudrais que Jésus-Christ me sauve ce soir? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une quatrième personne qui dirait, Seigneur Jésus, sauve-moi. Sauve-moi ce soir de mes péchés. Fais de moi ton enfant. Seigneur Jésus, nous voulons te demander de sauver réellement, par ta puissance, les trois personnes dont les mains ont été levées, en toute franchise et honnêteté. Seigneur, nous te remercions d'abord pour leur clairvoyance et pour leur courage. Merci Seigneur, parce que toi, tu les aimes tendrement et tu veux les sauver ce soir même. Nous te remercions de le faire, à mesure qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils te demandent, Seigneur Jésus, sauve-moi, fais de moi ton enfant, donne-moi la vie éternelle comme tu l'as promise par la Bible. Et je veux vivre pour toi et je ne compte que sur toi, sur ton sacrifice pour mon salut. Oui, tu nous as dit, je ne jetterai dehors personne qui vient à moi. Tu nous as aussi dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci de ce que tu fais ce soir parmi nous. Amen.